tous les podcasts des 3-8, radiogrenouille.com.
Radio Grenouille. 10 minutes avec.
La rédaction des 3-8, 10 minutes avec.
Rivox, le rendez-vous des musiques et arts électroniques.
Bonjour Pierre-Yves Massé.
Bonjour Stéphane.
Merci d'avoir accepté l'invitation de Radio Grenouille et bienvenue dans le studio des 3-8. À l'occasion de ta présence pour le festival Rivox, mercredi 12 février à Clap Maison pour la Danse à 21h sera donné le spectacle Voir, V-O-A-R, ou L'Heure du Vertige, pour lequel la chorégraphe Marinette Dosville t'a confié la partie musicale. On va en parler un petit peu, mais avant tout, si tu veux bien, faire un petit peu mieux connaissance avec toi, pour ceux des auditeurs de Radio Grenouille qui ne te connaîtraient pas déjà. Tu es compositeur, ton travail est souvent au croisement de différentes choses, écriture, création électroacoustique, art sonore, et on a pu l'entendre, il a été documenté sur des labels aussi prestigieux et variés que Tzadik, Sub Rosa, Orchestra ou Broccoli, sans oublier des collaborations avec des groupes plutôt orientés pop ou rock aussi, musique pour lesquelles tu as une sensibilité également. Alors justement, en parlant de sensibilité musicale, comment tu décrirais la généalogie ou l'étymologie ou l'ADN de ta propre sensibilité musicale qui arrive massée dans ton enfance ou ton adolescence peut-être?
Oui, bah, il faut forcément revenir à ces moments-là. Alors j'ai commencé par écouter du rock. Alors j'étais un peu déphasé par rapport à mon époque puisque j'ai grandi dans les années 90 et j'écoutais du rock des années 70. Voilà, il y avait 20 ans de décalage. J'étais très obsessionnel. J'avais quelques groupes que je suivais énormément, notamment de rock, ce qu'on appelle rock progressif, parce que j'étais fasciné par cette musique qui alliait à la fois le côté spontané du rock, l'énergie du rock et en même temps une construction savante ou un travail vraiment dans la construction des morceaux, et tout ça me fascinait beaucoup. Donc j'ai écouté énormément cette musique et je pense que ça m'a pas mal marqué, que ça dit beaucoup de choses de même ce que je fais maintenant, qui n'a plus rien à voir avec le rock progressif évidemment. Et ensuite par le rock, notamment par la figure de Brian Eno, je suis allé vers la musique expérimentale. Et par la musique expérimentale, la musique contemporaine, enfin voilà, à partir du moment où j'ai ouvert cette brèche, c'est quelque chose vraiment à changer. Et je dirais que voilà, j'ai découvert vraiment la musique qui m'intéressait et ce que je pouvais y apporter.
L'étude et la pratique, elles sont rentrées en jeu à quel moment dans cette trajectoire-là des débuts?
Eh bien, assez tard, et plutôt en second lieu, c'est-à-dire que j'ai commencé par écouter et expérimenter avec le matériel que j'avais, donc à l'époque, qui était un matériel assez rudimentaire, mais qui me permettait de faire des petites compositions électroacoustiques, des petites choses. Et ensuite, donc oui, vers l'âge de 15-16 ans, j'ai étudié le piano, mais ça a été secondaire, et je ne suis pas allé très très loin d'ailleurs dans cette voie-là, puisque ce qui m'intéressait, c'était vraiment de composer.
C'était les parents qui voulaient que tu fasses du piano classique?
Non, pas du tout. C'est, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, faut quand même que je... Non, au contraire, mes parents étaient surpris que je fasse de la musique.
C'était l'initiative personnelle.
Non. Tout à fait.
Pardon, je mélange tout.
Non, pas de problème. Et voilà. Donc, ce qui fait que l'étude de la musique a toujours été... j'ai pas suivi le cursus traditionnel, j'ai plutôt une formation d'autodidacte. Et voilà, c'est ce qui m'a valu quelques complexes à un moment, parce que précisément, lorsqu'on est compositeur, on est censé avoir étudié avec... présenter un CV bien fait avec les noms des grands professeurs. Et c'est vrai que voilà, tout de suite, je me suis un peu mis à l'écart de ce parcours-là.
C'est ça aussi qui est à l'origine peut-être du coup, parce que tu écris aussi sur la musique, et d'ailleurs tu as fini un travail de thèse de doctorat, je crois, c'est ça?
Tout à fait, qui était publié il y a 2 ans.
Musique et documents sonores, est-ce que ça venait de là aussi, cette envie de poser des mots, des grilles d'analyse également?
Disons que oui, ça faisait partie de mon regard un peu décentré sur la musique, c'est-à-dire que j'ai eu effectivement assez vite, je pense, une volonté d'analyse de mon écoute et des objets que j'écoutais, et forcément ça a donné lieu à une volonté de poursuivre ça, notamment là pour le coup sur un plan plus universitaire, conventionnel, où j'ai fait des études d'abord de littérature, ensuite de musicologie, et qui ont mené justement à ce doctorat. Et cet aller-retour entre la théorie et la pratique est assez précieux pour moi, d'avoir vraiment la possibilité de passer de l'un à l'autre, et de l'un qui influence l'autre...
Tu le continues à travers d'autres types de contributions écrites à des magazines comme tu as pu le faire par
oui.
le passé, par exemple à des revues?
Oui, tout à fait. C'est un peu plus épisodique maintenant parce que je compose plus et que voilà, il faut faire des choix, mais je continue. Ouais.
Alors, ce qui est intéressant là aussi, c'est que du coup, le texte, l'écrit, parfois dit, mais pas toujours, sont... C'est quelque chose de je ne sais pas si le terme fondamental est juste, mais en tout cas d'assez central, pivot un petit peu, j'ai l'impression, dans ton travail assez régulièrement.
Par rapport au fait que je travaille sur la voix ou...
Mais justement, ouais. Parfois c'est un travail sur la voix, mais parfois c'est un travail sur finalement une textualité qui est pas nécessairement dans la musique. Je pense à Passage and Wake, par exemple, où finalement il n'y a pas de parole,
ouais.
Mais il y a un travail autour de...
Il y a beaucoup de discours.
Il y a du discours. Comme on peut parfois le voir du côté de l'art contemporain, mais là, de bonne manière, de manière riche, je trouve, pas seulement pour justifier un travail par ailleurs, uniquement par le discours qui l'accompagne, quoi, hein, c'est pas ce que je voulais dire.
J'ai l'impression qu'il
y a toujours une matière textuelle, quelque part, au centre ou à la base du travail que tu mènes.
Alors pour Passage and Wake, effectivement, c'était une... je me suis inspiré d'un livre de Walter Benjamin, philosophe allemand qui s'est suicidé en 1940 et qui a laissé inachevé ce qu'on a appelé le livre des passages, et donc ce qui donne son titre, Passage and Wake. Et je pense qu'effectivement, donc là c'est vraiment une source textuelle, mais globalement dans mes compositions, il y a généralement à la source une idée ou on pourrait dire un concept presque. Et parfois ça prend une forme écrite, ça s'incarne dans un livre comme le livre des passages, et parfois c'est beaucoup plus abstrait, mais il y a toujours effectivement une idée, je dirais que c'est assez, il y a quelque chose d'assez conceptuel, mais que j'essaye de dépasser par la musique, c'est-à-dire que le concept est une idée de départ, et ensuite évidemment la musique vient donner de la chair, et je fais en sorte que ma musique ne reste pas une musique conceptuelle au sens négatif qu'on peut donner à ce terme.
Pour schématiser toujours, je dirais qu'en effet l'autre ligne de force de ton travail, c'est ce travail qui a de différentes manières, parce qu'il n'est pas non plus unique, ton travail, hein. Tu varies beaucoup les formules orchestrales quand tu travailles avec des musiciens, ou les différents types de matières que tu peux travailler et la manière de les travailler. Mais la ligne de force qui me semble y avoir, c'est aussi vraiment un travail sur les dynamiques. On retrouve les termes de circulation, de cycle, de choses comme ça. Et ça rejoint ce que tu disais. Et sur un travail sur le mouvement aussi. Et là, justement, tu travailles avec avec une chorégraphe, Marinette Dosville, et des danseurs. Et je crois que les mouvements des danseurs, justement, vont jusqu'à constituer une partie de la matière sonore que tu utilises pour en tout cas les mouvements, les sons du plateau.
Oui, tout à fait.
Que tu utilises pour la bande son du spectacle, voire.
Oui, effectivement. Ça a été un choix conjoint de Marinette Dosville et de ma part, d'utiliser vraiment comme matière première ce qui se passe sur le plateau, et que même la diffusion du son vienne du plateau. Donc on a une espèce de mélange entre les sons qui sont produits par les danseurs et les sons de la bande son.
Et tu as utilisé des voix aussi, du coup?
Alors oui, alors ça pour le coup c'est un ajout, puisque donc les danseurs n'utilisent pas leur voix pendant le spectacle, mais je les ai fait chanter, j'ai capté leur souffle, leur respiration. J'ai aussi enregistré un flûtiste, Cédric Julion, qui joue de la flûte basse, et donc pour aller encore dans ce sens du son venteux qui évoque le vent, enfin l'air en tout cas. Et à partir de tout ça, j'ai fait une composition que je dirais à la fois purement électroacoustique, en même temps qui garde toujours un ancrage dans la sonorité organique. Donc toutes les sonorités sont d'origine acoustique, on peut dire, et elles sont entremêlées. Il y a beaucoup de synthèses croisées, par exemple, de morphing entre des sonorités. J'ai fait des morphings entre flûte et voix, entre le son des tabourets et le son des voix, et donc j'obtiens des sonorités un peu hybrides comme ça. C'est vraiment un travail sur l'hybridation des sonorités.
Est-ce que le temps passant, parce que je me souviens il y a quelques années, on parlait de toi d'un jeune, comme d'un jeune compositeur, là ça y est, ça, on va arrêter.
C'est fini.
Et on peut voir au fur et à mesure des années aussi la diversité de ton travail de plus en plus large, j'ai l'impression. Est-ce que toi tu as le sentiment c'est une question un peu bateau ou idiote, je sais pas, mais d'appartenir à une forme de tradition ou d'avoir un petit peu dans la manière dont tu mènes ta propre voix, d'avoir des références fortes qui t'aident aussi à avancer.
Alors oui, j'ai des références.
Est-ce que ça pourrait être identifier une forme de tradition musicale?
Alors est-ce que ta question c'est par exemple un courant actuel
Actuel ou passé
ou passé, ouais.
Alors, ou une figure tutélaire?
Là, il n'y a pas une figure, il y en a énormément, ça c'est sûr. Et par rapport à ce qui se passe actuellement, j'avoue que je sais pas vraiment s'il y a un courant dans lequel je pourrais me situer. C'est quelque chose que j'ai du mal à sur lequel j'ai du mal à avoir une prise, quoi. Et ce qui est certain, c'est que par rapport à il y a quelques années, donc lorsque j'étais un jeune et insouciant compositeur, je me préoccupe bien davantage de la cohérence de mon travail. Et que malgré toute la diversité dont tu as parlé, qui est réelle, je perçois maintenant assez clairement où sont les lignes de force, les récurrences, même si ça donne des résultats sonores très différents, parce que effectivement, en fonction de l'instrumentation, de la source du projet, je pense que ces résultats différents ont finalement assez peu de, en tout cas, sont reliés par des sources finalement qui sont assez peu nombreuses, quoi. Il y a vraiment quelques points très forts dans mon travail qu'on va retrouver vraiment sous des formes très très diverses.
Lesquelles?
Je dirais par exemple, tu parlais tout à l'heure du mouvement et de la circulation, la question du recyclage par exemple est très importante, le fait de se réapproprier des matériaux qui seront par exemple des matériaux délaissés ou des matériaux de l'ordre du déchet presque parfois. Je pense que c'est le lien qu'on peut faire entre Passage en Vague, où il y a une récupération de chansons rétro des années 30, et Song Recycle, où là c'est la récupération de chansons a cappella prélevées sur YouTube, donc d'un matériau qui n'est pas très... matériau un peu frustre, on peut dire, et que je réinvestis, donc comme si j'essayais d'insuffler une nouvelle vie à ces matériaux. Je pense que ça, par exemple, c'est une thématique qui permet de relier deux œuvres qui, a priori, au niveau du son, sonnent très très différemment.
Merci beaucoup Pierre-Yves Massé.
Merci Stéphane.
On rappelle que tu es présent pour la représentation de Voar, je ne sais pas comment on le prononce, parce qu'en fait ça veut dire voler en portugais.
Tout à fait.
Voir ou l'heure du vertige de Marinette Dosville à Clap Maison pour la Danse le mercredi 12 février à partir de 21h dans le cadre de Rivox.
Radio Grenouille, Radio, Radio Grenouille. Grenouille, 10 minutes.
La rédaction vous invite. 10 minutes avec
Rivox, le rendez-vous des musiques et arts électroniques.
Chronique, émission spéciale, sélection musicale. RadioGrenouille.com.